BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le mag. Et si vous alliez travailler à la COFAS, il paraît que c'est sympa et qu'il n'y a pas trop d'organisation formelle. On va en parler avec son DRH Pierre Rivière qui sera avec nous dans un instant. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui qu'avant d'être une femme dans l'industrie? C'est la question qu'on va poser à Dominique Bello. C'est une ancienne DRH du secteur, aujourd'hui consultante en management. Et puis si vous croyez que vous allez réussir à vous organiser avec un petit bout de papier ou un tableau Excel en plein Covid et que vos équipes soit toute là à l'heure, je pense que vous mettez le doigt dans l'œil. On va en parler ensemble avec Dominique Taïeb. Il a créé Comiflex, une solution pour s'organiser. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et cette semaine, on va décortiquer la stratégie RH de la COFAS. On est avec Pierre Bévière. Bonjour, vous êtes DRH de COFAS. Vous auriez dû être avec nous en chair et en os, mais comme beaucoup d'entre nous, vous êtes cas contact, vous avez un enfant qui est positif. Alors justement, ça me donne une entrée en matière toute trouvée. Comment on gère dans une entreprise comme la COFAS, 4500 collaborateurs? Vous êtes leader dans l'assurance crédit. On connaît bien COFAS à BFM Business. Comment on gère des classes fermées, des salariés qui viennent, qui ne peuvent pas venir, qui doivent garder les enfants, des changements en permanence?
Eh bien, avec beaucoup de... Bonjour d'abord. Avec beaucoup de flexibilité, je pense que c'est le plus important. On a comme beaucoup d'entreprises, négocié un accord de télétravail en début d'année. Mais ce qui compte, c'est effectivement une capacité à réagir, très, très rapidement, à suspendre l'accord, à le remettre en place et à rester très, très attentif également à l'anxiété que tout ça peut générer à travers une communication donc plus vraiment renforcée.
Parce que là, on est dans une nouvelle phase de rebond de l'épidémie avec une forte incitation au télétravail en passant de 2 à 3 jours depuis une dizaine de jours. Des salariés qui sont déçus. J'imagine que chez vous aussi, on a annulé toutes les festivités de Noël.
Exactement, grosse déception. Alors on a essayé de remplacer ça par un certain nombre d'événements virtuels, mais évidemment ça n'a qu'une certaine valeur, donc c'est décevant, mais on essaye de réagir un peu au quotidien.
Est-ce qu'on est reparti chez vous en baisse de productivité? Je le disais, il y a des absences aujourd'hui dans l'entreprise, notamment en lien évidemment avec les classes fermées et les enfants à garder, plus ceux qui sont vraiment positifs et qui sont malades. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez clairement des trous dans le planning?
Ça arrive de manière assez ponctuelle, mais c'est vrai que cette situation, comme beaucoup, on la connaît depuis longtemps, et maintenant on a effectivement adapté notre organisation à un mode de télétravail. On a de la chance parce que la quasi-totalité de nos emplois sont télétravaillables, et donc on a des gens qui réagissent très très bien, et finalement on a fait une des plus belles années de l'histoire de COFAS cette année, avec une organisation du travail extrêmement flexible, avec des gens qui venaient, puis la semaine suivante contre ordre, donc... C'est finalement assez bien adapté et on est en mode de croisière sur les passages au bureau et en télétravail.
Oui, parce que justement vous êtes 100% télétravail, donc vous faites aussi partie de la population qui peut être épuisée par le télétravail à outrance, par le manque d'interaction, le manque de discussion, le trop de Teams toute la journée. Comment ça se voit chez vous? Il y avait quand même un retour au bureau, une envie de se retrouver?
Alors, il y avait un retour au bureau qui s'est passé entre la fin du mois de septembre et il y a à peu près une semaine, où on a fait revenir les gens deux jours par semaine, avec un jour d'équipe décidé en équipe, en fonction de l'organisation personnelle des gens de l'équipe. Et ça a été formidable, ça a ressoudé beaucoup les équipes, mais bon, maintenant, évidemment, on est repassé en un mode de télétravail ou de reprise au bureau sous le mode de volontariat parce que la situation sanitaire l'exigeait. Mais je pense que ça a beaucoup ressoudé et beaucoup travaillé à la cohésion des équipes.
COFAS, c'est 4500 collaborateurs, je le disais tout à l'heure, 1,45 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Vous dites que vous avez fait une très belle année. En termes de recrutement, l'année prochaine, vous êtes sur quel rythme?
On a un rythme de recrutement fort. On recrute entre 150 et 200 personnes en France par an. Et au niveau global, on est probablement autour de deux fois ça sur l'ensemble des entités. Donc un rythme de recrutement très, 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 très soutenu.
Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on aurait envie aujourd'hui, en janvier 2022, de rejoindre le leader de l'assurance crédit? C'est quoi les arguments de Coface pour convaincre?
Alors, je pense que notre culture est un des arguments importants. On a une culture qui est agile, qui est très souple, qui est assez peu formelle et qui est composée de beaucoup de d'ingrédients qui sont, je pense, très sympas pour les générations qui viennent et pour les autres également. Une culture de collaboration. On est finalement une petite entreprise. On s'appelle souvent une multinationale de poche. 4 500, c'est pas énorme, surtout quand on les répartit sur 70 pays. En revanche, on travaille de manière extrêmement étroite avec l'ensemble du groupe et finalement dans une atmosphère très informelle et collaborative. Ça, c'est un point. Je pense qu'un point très important également pour Coface, c'est, je vous le disais, 70 pays, c'est beaucoup de mobilité internationale. On a multiplié par 3 la mobilité internationale depuis dans les 5 dernières années. C'est un vecteur d'échange, c'est un vecteur de construction de la culture. Donc la mobilité internationale ou le travail chez soi sur des projets internationaux, donc avec des interlocuteurs de cultures extrêmement variées, est vraiment un atout qui fait qu'on vient avec effectivement beaucoup de motivation tous les jours.
Alors il y a 2 points sur lesquels je voudrais revenir dans ce que vous venez de dire. Vous dites peu formel, même dit informel après, et ça veut dire quoi? Il n'y a pas de rapport, il y a moins d'écrits, il y a plus de discussions. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme?
Alors, on essaye de travailler beaucoup, effectivement, avoir une entreprise où les rapports hiérarchiques ou la bureaucratie inhérente à toute grande organisation est la plus réduite possible. On essaye d'être vraiment une entreprise qui promeut la simplicité, la focalisation sur un objectif plutôt que un réseau complexe de relations un peu politiques qu'on connaît dans des grandes organisations. Et je crois qu'on est une entreprise qui fonctionne bien sur ce plan-là. D'une certaine manière, la crise sanitaire a contribué, je dirais, un petit peu à ça. Elle nous a donné une culture où, finalement, les échanges passaient à travers les canaux hiérarchiques. On communique maintenant à des audiences extrêmement larges sans forcément avoir à cascader l'information selon la ligne hiérarchique. Et je pense que ça a simplifié pas mal l'organisation. Et puis, surtout, les rapports entre effectivement les équipes et leurs managers reposent maintenant sur la confiance. Hein. On n'est plus dans une situation où on peut voir tous les matins que les gens arrivent à 9h et partent à telle heure. On est maintenant obligé de faire confiance. Donc ça a changé.
Vous n'êtes pas une grande banque ou un cabinet d'avocats. Vous êtes beaucoup plus cool.
Absolument pas. Absolument pas.
Le deuxième point, c'est sur l'international. Vous disiez, on est une multinationale de poche. Est-ce que vous avez des gens des autres pays qui ont envie de venir en France et qui viennent chez vous à Coface?
Alors on en a beaucoup. On a développé pas mal, effectivement, que ce soit des mobilités, des expatriations, des gens qui viennent s'installer en France pour quelques années, ou c'est dans notre projet de développement de l'expertise de nos équipes. On a également beaucoup de personnes qui viennent au siège pour se développer pendant 6 mois sur un métier particulier et qui vont rebondir soit dans leur pays d'origine, soit dans un autre pays, pour emmener cette expertise et une certaine culture.
Il y a des allers-retours entre pays. Vous avez travaillé très longtemps chez General Electric. Vous avez connu les boîtes américaines. C'est quoi la différence entre DRH de boîtes américaines et DRH de boîtes de France? J'ai une petite idée sur la question, mais j'attends votre réponse.
Ah, je pense que c'est une question culturelle avant tout. Je pense qu'on est une entreprise très internationale, très globale, mais malgré tout avec une touche de culture française, et ça se retrouve évidemment dans la façon dont on s'occupe des équipes sur le plan des ressources humaines, une certaine profondeur dans les échanges qu'on n'a pas toujours dans des entreprises d'une taille, je ne sais pas si c'est américain, mais d'une taille aussi importante que celle dans lesquelles j'ai pu travailler auparavant.
Il y a peut-être moins de process, parce que moi ce que je vois dans les DRH des entreprises américaines que je reçois, c'est vraiment la demande d'autorisation pour tout, le process, tout est cadré, il n'y a aucune place pour l'informel, ce que vous disiez tout à l'heure.
Absolument, et je rajouterais tout ce qui est effectivement reporting, relations effectivement politiques au sens rapport de pouvoir, qui était beaucoup plus simple dans une entreprise comme Coface que dans les environnements que j'ai pu connaître auparavant.
C'est quoi votre défi RH pour 2022, à part recruter entre 50 et 100 personnes ?
Ben c'est un peu ça, c'est l'attraction, mais c'est aussi la rétention. On est dans un monde qui est extrêmement compétitif sur le plan de ce qu'on appelle les talents, dans notre jargon des ressources humaines, c'est-à-dire finalement les gens qui vont nous rejoindre avec une expertise, avec un background, avec une personnalité, avec une culture particulière et qu'il faut intégrer avec tout ça, surtout pas essayer d'en faire des clones, mais bien au contraire préserver la diversité de ce qu'ils représentent et de ce qu'ils sont en tant que personnes dans l'entreprise. Donc les attirer et les retenir dans un environnement qui va les laisser se développer pour ce qu'ils sont, et quelque chose qui est vraiment un défi et sur lequel nous travaillons beaucoup aux ressources humaines et de manière générale.
Il n'y a pas que les start-up dans la vie, là où c'est sympa de travailler. Il y a aussi la Coface qu'on vous présentait aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre Bévière d'être venu nous voir, DRH de Coface. On va parler des femmes et de l'industrie.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on va parler des femmes dans l'industrie. On est avec Dominique Belos. Bonjour, ancienne DRH et auteur de « Il était une fois une femme dans l'industrie ». C'est aux éditions L'Harmattan. Vous avez travaillé, Dominique, plusieurs années, beaucoup d'années dans l'industrie. Plus de 20 ans chez Hutchinson. C'est une filiale du groupe Total. Vous avez été DRH, puis Vous avez quitté l'industrie juste avant le Covid.
Juste avant.
On est... 2 ans et demi après votre départ, est-ce que vous diriez que l'industrie a totalement changé, que si vous y retourniez aujourd'hui, ça n'aurait plus rien à voir ?
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a certainement beaucoup de changements liés au Covid et à toute l'organisation que le Covid a demandé d'inventer, car de toutes pièces quasiment. Mais sur le fond, je ne pense pas. Et quelque part, je suis tentée de dire, je ne le souhaite pas non plus, pour les très 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 bons côtés de l'industrie, qui a un univers avec des potentiels fabuleux pour l'ensemble de ses salariés, et de, que ce soit homme ou femme, mais que le Covid ait changé des codes, est obligé de regarder autrement certains aspects de l'entreprise, oui, ça, je le crois. Ça, je le crois. Par contre, l'âme de l'industrie, je ne pense pas qu'elle ait fondamentalement changé.
Moi, j'ai parcouru votre livre un peu comme un livre d'histoire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai l'impression que l'époque que vous décrivez est un petit peu révolue. Vous êtes très souvent la seule femme. Vous devez vous imposer avec tout le sexisme qu'on connaît à n'importe quel milieu du travail. Mais j'ai l'impression que ça évolue quand même. Déjà, on est de moins en moins seul en tant que femme quand on dirige. C'est ça qui change fondamentalement.
Ça, c'est vrai.
Est-ce que vous aussi, vous diriez que c'est un témoignage passé ou c'est un manuel pour plus tard ?
J'irai pas jusque-là. Ça n'est pas un témoignage passé, mais je suis ravie de voir qu'il y a des grandes évolutions qui ont été faites pour permettre, entre autres, plus facilement, plus naturellement, la présence des femmes dans la hiérarchie, en particulier dans les instances un petit peu plus élevées que le monde habituellement côtoyé par les femmes. Mais la question m'avait été posée il n'y a pas très longtemps, et je me suis dit, et je me suis moi-même posé la question, si j'avais à refaire ma carrière, est-ce que je rencontrerais plus de difficultés qu'hier, ou moins de difficultés ? Eh bien, je pense que j'en rencontrerai pas plus. Mais est-ce que j'en rencontrerai vraiment moins ? Je ne suis pas encore totalement convaincue. Alors, il y a des progrès qui sont du fait que, déjà, les jeunes générations féminines et masculines ont été habituées à évoluer ensemble. Donc, quand ils se retrouvent dans une communauté managériale au sein d'un même communauté industrielle, vont se retrouver plus à l'aise pour accepter que l'on se partage ce que j'appellerais le pouvoir, et non pas qu'on se le pique, si je peux dire. Mais je pense qu'il y a encore des étapes à franchir, mais qui sont probablement beaucoup plus dans la tête des jeunes femmes et des femmes que dans celle du monde masculin.
C'est-à-dire que pour vous, il y a des verrous personnels.
Ah oui.
Toujours.
Et l'un des principaux, et là je m'en aperçois en accompagnant dans ma nouvelle entreprise que j'ai créée, j'accompagne un certain nombre de personnes.
Vous avez un cabinet de consultants.
Oui, j'ai un cabinet de consultants parce que je me suis dit, étant maintenant libre de
faire. Vous n'avez pas pu vous arrêter.
Ah non, non, non. Je suis une femme très active, mais c'est comme ça. Et surtout, je me suis dit, est-ce que je peux mettre mon expérience, sans prétendre avoir fait un parcours magnifique, mais en tout cas c'est le mien, est-ce que je peux le mettre au service des femmes et des jeunes femmes qui entament leur carrière pour permettre d'acquérir plus rapidement que spontanément on est tenté de le faire, assez classiquement, la confiance en elles. Ce qui manque beaucoup aux femmes, c'est d'avoir confiance en elles-mêmes, et donc elles sont encore assez dépendantes de du verdict qui va être donné par
besoin
les autres.
Besoin de reconnaissance.
Et il y a un très grand besoin de reconnaissance.
C'est une quête sans fin.
Ah mais, donc pourquoi ? Parce que souvent, nous sortons de l'éducation en petite fille modèle, et ce modèle de petite fille modèle, nous le gardons en tête, au lieu de le lâcher, pour attraper celui de la femme qui va être respectée, mais pas forcément aimée au sens business du terme, hein, bien sûr. Parce que le monde de pouvoir, le monde hiérarchique, va demander de prendre des responsabilités, d'assumer ses choix, d'assumer ses erreurs, et donc d'avoir...
D'assumer
parfois,
d'avoir de l'ambition aussi, ce qui n'est pas d'assumer. Toujours ça.
Alors l'ambition est effectivement moins féminine que masculine. La femme s'empare plus du pouvoir par conviction. Ça, c'est également un constat que j'ai fait. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de femme ambitieuse et qu'on n'a pas
c'est-à-dire qu'une envie de changer les choses, une envie
Voilà, exactement. Plus que de conquérir tel poste, parce qu'il faut bien que je l'ai. C'est un des constats très favorables, féminin.
Moi, quand j'entends aujourd'hui Valérie Pécresse, candidate à la présidentielle, expliquer en long, large et en travers à son électorat de droite, puis potentiellement à toute la France, qu'une femme peut diriger, que c'est possible, qu'elle a capacités, etc.
Bien sûr.
Oui, mais il y a un besoin d'expliquer, de faire de la pédagogie, de convaincre.
Oui.
On en est encore là,
on en est
2021,
encore là. On en
à expliquer que c'est possible.
Et pour moi, je pense que ça changera le jour où, donc ça prend un petit peu de temps, on ne fera évoluer notre système d'éducation. Que ce soit éducation parentale, primaire, secondaire, universitaire, et au niveau des femmes, comme des hommes, des jeunes filles ou des petites filles comme des petits garçons, pour pouvoir faire lever tous les freins qu'on a encore aujourd'hui dans la tête quand on est une femme et qui sont liés à des biais, des injonctions personnelles et des biais cognitifs qui viennent.
Pourtant, l'école a beaucoup travaillé quand
alors,
même.
Alors ça m'a fait très plaisir.
Sur les biais, hein. Maintenant,
oui,
les
ça commence, et ça, ça m'a fait très plaisir.
Les petites filles jouent
et
aux voitures.
Et pour ne rien vous cacher, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Puisque je me destine à l'enseignement, donc l'éducation et la formation me passionnent. J'ai participé à l'université de Jean-Michel Blanquer début octobre à Poitiers, et j'ai côtoyé le corps enseignant. Et là, j'étais ravie de voir qu'effectivement, on commence à changer les lignes, les codes, et qu'on introduit entre autres la notion de... alors, ce qu'on appelle assez vulgairement, maintenant je vais dire au sens vulgariste du terme, soft skills, mais donc les compétences qui sortent du compétence intellect, si je peux dire, du QI, pour mettre les compétences émotionnelles et faire introduire l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est la force des femmes. On a un atout majeur d'être plus naturellement, je ne dis pas que les hommes n'y ont pas accès, mais plus naturellement que les hommes, à cette empathie, à cette écoute de l'autre, qui va nous faire attraper un sujet sous une forme assez souvent d'office humaine.
On voit surtout le milieu évoluer par rapport aux entreprises de la tech, qui n'est pas votre milieu de départ, mais là, on voit notamment ici dans Happy Boulot Le Mag, énormément de jeunes DRH avec une envie de changer le monde, de bouger. Vous les regardez comment ces
alors, avec admiration. Et je ne peux que les encourager. J'ai moi-même des relations parmi ces jeunes DRH, dont une personne que j'ai en tête et qui a un très beau poste dans une jeune entreprise où elle est en tant que DRH, on ne l'appelle pas DRH. Elle est Chief of People and Culture.
Eh
bien, rien que ça, ça veut tout dire. People and Culture. Et ça, c'est vraiment le trend que je ne peux qu'encourager. Qu'encourager.
Merci beaucoup Dominique Belos d'être venu nous voir dans Happy Boulot Le Mag. Il était une fois une femme dans l'industrie. C'est aux éditions L'Harmattan. Vous ne bougez pas, on va parler de Business Case.
BFM Business, Happy Boulot, Le Mag, Business Case.
Et on va parler d'organisation du travail. On va essayer de mettre un peu de règles dans le bazar dans lequel on est actuellement entre les cas contacts, les absences, le travail hybride, etc. Et j'en passe et des meilleurs. On est avec Dominique Taïeb. Bonjour, vous êtes Bonjour. Managing Partner chez Poly Conseil. Vous êtes un cabinet spécialiste de l'innovation et de la transformation digitale. Et vous avez créé une solution SAS pour aider les entreprises à s'organiser pour faire mieux qu'avec un tableau Excel, en gros.
Oui, c'est ça. Ça s'appelle CoviFlex. Et c'est une solution sans capteur qui permet aux DRH, en réalité, de mettre en place leur mode de travail hybride sans douleur.
Alors, le capteur, pour les gens comme moi, on appelle ça un mouchard. C'est ce qui vérifie, par exemple, chez certains, toutes les 20 minutes que vous êtes bien dans votre ordinateur, que vous travaillez.
Alors,
c'est pas la confiance, quoi.
Ouais, l'idée, alors nous, évidemment, on est totalement contre cette solution, mais l'idée qui avait été avancée à l'époque, c'était de dire qu'en fait, un bureau, c'est comme un parking. Donc, on arrive, on regarde s'il y a une loupiote verte qui est allumée et si on peut mettre ou pas quelqu'un à une place. Sauf que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il ne faut pas partir des bureaux, il faut partir des collaborateurs. Donc, à partir du moment où c'est comme ça, un, il n'y a aucun cas d'usage des capteurs. Deux, c'est évidemment extrêmement anxiogène. Trois, ça coûte extrêmement cher parce que ça implique qu'on entretienne la solution, qu'on déploie du hardware, etc. Il faut le maintenir. Et puis, dernier point, et c'est quand même pas neutre aujourd'hui.
Puis
il y a un autre truc quand même, qui est très important aujourd'hui, je crois, c'est quand même toute la problématique d'empreinte carbone. Donc, à partir du moment où on a la possibilité de faire une solution 100% digitale, je pense que c'est quand même beaucoup mieux.
Donc, vous proposez quoi concrètement? Vous bossez avec Stellantis, mais avec d'autres clients. Vous êtes parti de leurs besoins, mais besoins qui sont très différents, même au sein de l'entreprise.
Oui, alors comme on met en place le mode de travail hybride, c'est quelque chose qui s'écrit tous les jours. Donc nous, on est parti d'une base et au fur et à mesure qu'on travaille avec nos différents clients, eh bien, on améliore notre solution. Et donc effectivement, avec Stellantis, on a introduit toute une série de spécificités. Par exemple, Stellantis avait envie d'avoir la possibilité de privatiser des espaces de travail pour faire des demi-journées de travail. Donc au lieu de réserver une place sur laquelle on va s'installer quand on va venir au bureau, on va aller directement s'installer dans la salle qui a été réservée pour faire le brainstorm ou la séance de travail avec tout un groupe.
Voilà. Donc grâce à votre logiciel, je sais exactement qui est là, qui n'est pas là. J'arrive quoi à piloter la cantine, à piloter la climatisation, à m'organiser tout?
Non, non, pas du tout. Mais effectivement, le principe, c'est qu'il y a en fait quatre entrées, puisque le mode de travail hybride, ça concerne au moins quatre directions. Il y a tous les collaborateurs qui disent s'ils veulent venir ou non, et s'ils viennent, où est-ce qu'ils veulent s'installer, et puis avec qui ils veulent travailler, donc essentiellement leurs collaborateurs ou les gens de leur équipe, et peut-être aussi même faire des sous-groupes avec des gens qui veulent voir quand ils viennent au bureau. Donc je trouve que ça, c'est quand même un point important. Ensuite, on a les managers qui, eux, décident si oui ou non les choix de leurs collaborateurs correspondent à ce qu'ils veulent. S'ils veulent pas, ils ont le droit de modifier, mais évidemment, la bonne pratique, c'est quand même d'aller voir le collaborateur ou de l'appeler pour lui demander de changer. Après, il y a la DRH qui, elle, a toutes ses sensibilités. Et en particulier, il y a une sensibilité qui est très importante aujourd'hui, qui est le bien-être. Donc, on a dans notre solution un module de mesure du bien-être des équipes. Alors, c'est anonyme, mais ça permet d'avoir des indicateurs, de suivre ça dans le temps. Et puis, s'il y a des choses qui paraissent un petit peu étonnantes, d'investiguer et d'essayer de trouver ce qui va.
Et puis, dernier point. Pilotage RH, environnement, immobilier.
L'immobilier, c'est l'autre point, puisque évidemment, l'immobilier veut lui vérifier quel est l'usage qui est fait de ces différents plateaux et, le cas échéant, pouvoir réduire, réaménager, réorganiser. Voilà, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important pour l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ces problématiques-là.
Vous qui faites de la transformation digitale, qui avait développé cet outil CoviFlex, vous dites quoi quand vous voyez vos clients, ceux qui pensent qu'ils vont juste pouvoir s'organiser avec une feuille, un tableau, et puis Jean-Pierre il vient lundi, Jean-Paul il vient mardi, on va s'organiser comme ça, ça ne va pas marcher?
Alors pour ceux qui ont essayé avec un tableau Excel, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont essayé au début, c'est un peu
C'est-à-dire, ils vont investir quoi, dans un outil aujourd'hui.
Ouais, c'est ça, je crois qu'on est obligé d'investir, il n'y a pas le choix, et sans ça c'est pratiquement impossible à faire.
Et l'organisation du travail, aujourd'hui, c'est quand même la clé pour la productivité.
Oui, alors la productivité évidemment, mais aussi le bien-être des collaborateurs. Et je pense que c'est les deux sujets, parce que la productivité, on l'a bien vu, elle a augmenté avec finalement le télétravail. On a trouvé aussi qu'il y avait un bien-être très important pour dans l'équilibre entre vie pro et vie perso grâce au télétravail. Mais par ailleurs, il y a un certain nombre de risques et il faut les mesurer, il faut les suivre de façon à s'assurer que les collaborateurs, eux, bénéficient pleinement de cette solution.
Quand vous faites de la remontée de données au DRH, par exemple, ou un autre, il y a de la surprise dans ce qu'ils voient, en fait, dans ce qui est effectif dans son entreprise?
Alors, je pense qu'ils ont déjà de la donnée qu'ils n'avaient pas avant. Et surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir mesurer les évolutions. Aujourd'hui, la surprise, je ne sais pas dans quelle mesure elle est très forte. Je ne sais pas le dire pour l'instant. Par contre, ce que l'on sait, c'est que avant, les DRH n'avaient pas l'information, et même des managers avaient parfois. Certains de mes clients me disaient qu'ils avaient jusqu'à 2000 collaborateurs dont ils ne savaient pas du tout où ils étaient, en fait. Donc déjà, savoir où sont les collaborateurs, ce qu'ils font, ce qu'ils aiment faire, quand est-ce qu'ils viennent au bureau, avec qui ils travaillent, ça a quand même beaucoup de valeur. Et donc, on a créé toute une série de reporting qui permettent aux différents acteurs, finalement, de piloter leur activité, de l'adapter et de la faire progresser.
Merci beaucoup, Dominique Taïeb, d'être venu nous voir, Managing Partner chez Polyconseil, qui a donc créé CoviFlex. On se retrouve dans 15 jours, après les vacances, avec tout un panel de DRH aux petits oignons. Vous retrouvez les best-of d'Happy Boulot Le Mag pendant les vacances de Noël. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.